Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en cette belle journée de printemps enfin. Bienvenue à Troisième Planète avec Bethléem Hickman, donc c'est moi. Et puis aujourd'hui, on accueille Barbara Genet, qui est la directrice de Québec ERE. Alors on va dire un peu ce qu'est Québec ERE, mais avant ça, Barbara, c'est une passionnée d'environnement. Une passionnée d'environnement qui a à cœur de changer les comportements en faisant de la pédagogie. Bonjour Barbara.
Bonjour.
Alors Barbara, à l'origine, puis on en a parlé un peu avant, tu es une biologiste, tu es une spécialiste du milieu marin que tu as côtoyé pendant de très longues années. Et puis tu as dû être sensible et voir concrètement sur place les effets de l'homme sur l'environnement. Est-ce qu'il y a un événement ou quelque chose qui t'a marqué en particulier?
Mais si on fait le lien avec le milieu marin, c'est sûr que ma formation à l'université m'a amenée à découvrir le Saint-Laurent, à plonger. C'est certain que la première chose que j'ai vue sous la surface du Saint-Laurent, c'est des débris. Malheureusement, parce que quand on plonge, souvent on plonge à partir d'un quai. C'était le cas au quai des Escoumins. Puis malheureusement, ben il y avait effectivement beaucoup de débris comme des bouteilles de bière, ces choses-là. Ça m'a assez marqué. Mais à cette époque-là, on avait déjà fait notre regroupement d'étudiants, on avait fait une corvée une fin de semaine pour aller justement nettoyer cet espace-là. Fait que je sais pas à quel point. Je pense que moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai toujours été préoccupée par ça. Est-ce que c'est cet événement-là qui a fait que j'ai suivi le parcours que je suis aujourd'hui? Je pense pas, mais c'est un regroupement de toutes sortes de petites actions que je voyais autour de moi, mais surtout, je souhaitais ardemment pouvoir être interprète. Je voulais pouvoir, j'aimais bien étudier le volet, je me trouvais très à l'aise au volet scientifique des choses, mais ce que j'aimais le plus, c'était d'expliquer et de faciliter surtout la compréhension, parce que souvent je le voyais, entre autres, c'est encore un exemple dans le secteur de Tadoussac, Grande-Bergeronne, les Escoumins, avec dans l'environnement du parc marin, il y avait toutes sortes d'interventions qui étaient faites auprès du milieu touristique pour justement pouvoir faire découvrir cet espace-là, cet environnement-là. Puis souvent je trouvais que les gens ils voulaient trop tout dire tout le temps. Mmh. Et laissaient peu de place à l'émerveillement. Et aussi, ils laissaient peu de place à l'interaction avec les gens. Ouais. Alors, je pense que c'est un petit peu tout ça là, qui m'a amené à me préoccuper d'éducation relative à l'environnement. Ouais.
Comme tu disais, scientifique avant tout, donc tu avais accès à ces connaissances. Puis d'après ce que je comprends, c'est que finalement, tu as vu qu'il y avait beaucoup de connaissances à transmettre et puis qu'on n'arrivait pas forcément à les transmettre comme il fallait. C'est ça qui t'a amené à l'éducation, à l'environnement. Aujourd'hui, pour toi, c'est un enjeu qui va croissant. Est-ce que tu trouves que finalement, on a une société où il y a beaucoup d'informations, mais finalement, on ne la partage pas?
Ben c'est fou parce qu'on dit tout le temps qu'on est à l'ère des télécommunications, qu'on a de l'information de partout, mais effectivement les gens comprennent plus, les gens ne lisent plus, ne regardent plus, ne comprennent plus. Puis il faut trouver des moyens accrocheurs de pour les séduire, des éléments de wow, de puis c'est ce qu'on fait chez nous à Québec. Alors, on essaie toujours de voir comment on peut toucher. Puis et l'essentiel du message, il faut pas penser que quand on va avoir un exposé, une formation, un atelier, on va réussir à donner à chaque intervenant un bagage. Moi, je me dis, si on réussit à les toucher ou encore à les amener à ne serait-ce qu'à réfléchir sur une problématique qui peut être complètement à l'opposé de ce qu'on vient de donner comme contenu, ben c'est gagnant. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais c'est vrai que, entre autres, j'interviens beaucoup avec des étudiants du collégial, avec des étudiants du secondaire, du primaire. Puis c'est complètement fou. Ils ont tous un Facebook, ils sont tous branchés sur leur téléphone, intelligents ou pas. Mais à quel point ils communiquent mal? Ça, c'est vraiment surprenant. Fait qu'il faut, on a beaucoup de défis, je dirais. Peut-être qu'on a beaucoup d'outils aujourd'hui. Il faut voir comment on peut justement exploiter ces outils-là. Mais c'est sûr qu'il faut changer notre façon de faire. C'est ce qu'on essaie, nous, de faire, essayer de changer les façons de faire, d'impliquer les gens, de les engager, puis de montrer l'exemple. Mais comment on peut le faire avec les nouvelles technologies d'information? Elles sont là. Maintenant, elles sont souvent trop nombreuses, puis elles sont diluées. Mm-hmm. Fait que c'est d'essayer de trouver des stratèges, ouais, pour que ça rende le tout intéressant. Ouais.
Tu as parlé de nous. On a parlé de Québec heureux. Finalement, vous êtes qui? Vous existez depuis assez longtemps, je crois.
Oui, c'est ça. On a été créé à l'initiative du Conseil régional de l'environnement, mmh, et des Amis de la Terre, des certains intervenants en environnement de l'époque, en 1998. Et on a tout de suite commencé à travailler en concertant pour essayer de voir là qu'est-ce qui se fait dans le milieu environnemental. Mais on a été créé pour répondre à un besoin en éducation relative à l'environnement, entre autres pour la région de Québec. Aujourd'hui, on rayonne à travers la province, mais essentiellement, on est comme des consultants en éducation relative à l'environnement. On est un organisme à but non lucratif, une entreprise d'économie sociale. Puis on essaie, notre mission, c'est vraiment de passer un message environnemental et que celui-ci soit accrocheur. On essaie d'utiliser notre slogan, c'est de l'imagination et du savoir-faire. Alors, on essaie vraiment là, de garder. Alors, on peut agir comme consultant, ce qu'on fait dans quelques collèges de la région, mmh, dont le cégep de Sainte-Foy, le cégep de Limoilou, depuis maintenant plus de 10 ans. On peut travailler aussi à offrir des produits d'animation et de formation. Alors, on peut d'aller en entreprise.
Par exemple, savoir qu'est-ce que demanderait un client et comment vous y répondez finalement avec un exemple un peu concret.
Ben, on est à côté de la bibliothèque Gabriel Roy. Ouais. On a déjà pour un client qui ils ont fait un plan de gestion des matières résiduelles et nous notre travail dans le cadre de ce plan là était de former tous les employés de la bâtisse à l'implantation de ce plan, savoir comment bien gérer les déchets. Alors on concevait pour eux une formation où étaient conviés tous les employés de la bâtisse à intervalles réguliers. Alors, sur une période d'une semaine avec des tranches, des moments de formation, bien, les employés se présentaient, puis nous, on les formait sur une période d'environ 1 heure avec vraiment spécifique qu'est-ce qu'ils devraient faire et comment fonctionnerait la gestion des matières résiduelles dans leur bâtisse. À l'opposé, on peut très bien demain matin, je ne sais pas où on est. Je pense qu'on est dans le secteur de Montréal pour quelques-uns d'entre nous, puis à Québec aussi. On peut très bien donner un atelier dans une classe de primaire sur la problématique de l'eau pour la ville de Québec, ou encore être en train de mener de front un programme d'engagement de concert avec des élèves de 6e année pour que dans leur école, ils récupèrent mieux les contenants multicouches. Fait que c'est très, très variable en termes d'animation et de formation, mais ça touche autant. Je me plais toujours à dire que chez nous, notre clientèle, c'est des jeunes de 3 à 99 ans. Parce que, justement, je reviens à ce qu'on disait d'entrée de jeu, c'est qu'on essaie de les toucher. Et dans chaque individu, il y a un jeune. Et c'est ce jeune-là qu'on va amener à changer. Parce que quand on est vieux, en tout cas, comme moi, on a de la difficulté à changer nos habitudes, mais quand on a des jeunes avec nous, qu'on les convainc, qu'on leur démontre que ça vaut la peine, ils sont prêts à emboîter le pas.
Ouais. Donc, je suppose que vous avez des techniques assez différentes quand vous avez dit on aborde des adultes qui sont déjà établis des certitudes, entre guillemets. et puis des jeunes. Comment est-ce qu'on arrive à briser un peu la glace d'essayer de casser un peu ces certitudes, en tout cas de les émouvoir?
Les écouter.
Ouais.
De un, les écouter. Écouter leurs préoccupations. Puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est important la connaissance. Quand on a la connaissance, après, on est capable d'amener les preuves à l'appui, puis des exemples concrets. Fait que c'est ça qui est le meilleur moteur pour justement convaincre les irréductibles Gaulois qui veulent jamais changer leur comportement. C'est sûr qu'il y en a qui sont difficiles à toucher. Puis on dans des événements plus grand public, on rencontre toutes sortes de gens et on a toujours la visite de gens très convaincus qui nous disent tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils font pour être félicités. Puis on les félicite à ce moment-là. Puis on leur dit ben pourquoi pas engager quelqu'un d'autre chez vous, montrer l'exemple. Ou encore, il y en a toujours qui sont contre. Ils disent que ça n'a pas de bon sens de se préoccuper de nos déchets. De toute façon, ça sert à rien. Mais si on se donne la peine de les écouter, habituellement, ils nous ouvrent toujours la porte où on a l'information pour pas les mettre en boîte, c'est une figure de style, mais pour justement leur dire, ah mon Dieu, et on le voit là, on le voit dans leur non-verbal, à un moment donné, là, oh, là on vient de comprendre qu'on a réussi. Après ça, là, il suffit pas de dire on va avoir le dernier mot, il suffit de les laisser aller. Et d'eux-mêmes, après, ils vont... on a déjà eu un parent qui était entré dans le cadre d'une grande exposition. Il y en a quelques-unes qui viennent de se faire, d'ailleurs, avec le concert de la Ville de Québec au Collège de Sullivan puis à Mérissy, pour les étudiants du collégial. Mais il y avait un parent qui était venu dans le cadre d'une grande exposition, puis il nous a avoué, après, il dit, moi, j'étais rentrée pour 5 minutes, là, juste pour faire plaisir. Puis finalement, je suis restée 1h30. J'ai appris des choses. Quand on a quelqu'un qui est en situation d'apprentissage, c'est gagné.
Ouais, j'ai vu aussi souvent ce qui marche bien, c'est, comme tu as dit, souvent on a des familles, et puis c'est les enfants qui vont être intéressés, puis les parents derrière, ben, en fait, ils écoutent attentivement aussi.
Ben, nous, c'est notre clé. C'est comme ça qu'on réussit à vendre, entre autres, auprès des villes, des MRC. Ce qu'on fait, comme puis tous nos programmes d'engagement, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est qu'on propose à des élèves, on les forme, on leur explique, on donne des faits, on explique qu'est-ce qu'il y en est. Puis ensuite de ça, on leur propose un certain scénario pour justement, comme je me plais à le dire souvent, contaminer d'autres personnes. Ouais. Puis c'est avec les enfants qu'on réussit le mieux. C'est comme ça qu'on a réussi à ce que on ait une société un peu, en tout cas au Québec, on fume beaucoup moins. On fume encore, mais toutes les problématiques reliées à la santé, souvent, c'est parce qu'un jeune a montré de l'intérêt envers un adulte, puis lui a dit « Pourquoi tu changes pas? » C'est comme ça. C'est effectivement, puis c'est notre moteur d'action au quotidien chez Québec Air.
Ouais.
Tout à fait.
Tu as choisi une chanson.
Oui.
De Jack Johnson.
Oui.
Qui s'appelle
Reduce, Reuse, Recycle. C'est sûr que c'est le moteur là de. C'est comme l'équation logique pour une saine gestion des matières résiduelles. C'est les 3 RVE en traduit. Alors c'est la réduction à la source, le premier R, le plus important. La réutilisation. Nous en français, chez Québec Air, on utilise la récupération en vue du recyclage. Puis ensuite de ça, ben si on valorise, on composte. Puis après ça, quand on peut plus rien faire, là, on en élimine. Mais le premier, réduire à la source, le plus important.
Bon, ben on va écouter ça tout de suite.
It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because 2 times 3 is
6,
and 3 times 6 is
18,
and the 18th letter in the alphabet is
R.
Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today.
We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you could try them on before you buy some more of those. Reuse. We gotta learn to reuse. And if the first two R's don't work out, and if you gotta make some trash, well don't throw it out. Recycle. We gotta learn to recycle. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Because three, it's a magic number. Yes it is, it's a magic number.
Justement de déchets.
Oui.
Et je crois que vous avez beaucoup d'actions dans ce domaine où finalement tout le monde peut agir très très rapidement. Puis
oui. Peut-être le message que je donnerais à tous vos auditeurs, c'est que la gestion des matières résiduelles, là, c'est assez simple. C'est pas très compliqué. Là où c'est compliqué, c'est quand nous, on arrive comme consultants puis qu'on doit organiser la gestion au sein de l'entreprise, de l'organisation, qu'on doit mettre en place les îlots, fameux îlots tri. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préoccuper de la sortie des matières en premier. Mais comme citoyen, qu'on soit de la ville de Québec, de la ville de Lévis, c'est notre ville qui s'occupe de ça. Elle s'occupe de la sortie. Alors nous, tout ce qu'on a à faire, c'est trier correctement. Alors, qu'on soit à l'Université Laval, à Place Laurier, qu'on soit dans notre entreprise, dans un lieu public où il y a des îloteries, peut-être que ce que je pourrais dire, puis c'est ce que tout le monde devrait dire, puis c'est ce que je donne comme message quand je rends compte des intervenants, moi, des différents ministères, c'est que lisez les étiquettes. C'est pas compliqué. Quand sur un bac bleu, c'est indiqué qu'on peut y déposer du papier ou du carton, ben, on y met du papier et du carton. Demandez-vous pas si votre sac de chips va là, il va pas là. C'est sûr, mm-hmm. Il est en pellicule plastique. À l'opposé, vous avez un pictogramme qui vous indique « Ah, plastique ». Puis là, vous vous dites « Ah, c'est compliqué, là, c'est vrai, le plastique. »
Quel numéro?
Quel numéro?
Il y a plein de numéros.
Ils sont habituellement tous indiqués, encore une fois, sur le pictogramme. Puis, un truc simple, c'est que dans le cas du plastique seulement, on se préoccupe de ces pictogrammes-là. Le reste, là, du métal, c'est du métal, de la vitre, c'est de la vitre, du papier, c'est du papier, puis ça s'arrête là. Alors, pour le plastique, on va regarder sous le contenant. Alors, c'est toujours sur les fesses du contenant, habituellement, où on a le triangle de
flèche. Et parfois, il n'y a rien.
Quand il n'y en a pas, c'est parfois le producteur qui n'a pas étiqueté son emballage adéquatement ou encore qu'il n'est pas... Alors, dans ce temps-là, il suffit de le mettre à la poubelle. Mais ça va être indiqué sur le pictogramme où on doit le mettre. Oui. Mais j'avoue que parfois, les pictogrammes sont... on n'a pas sous la main un îlot de tri adéquat à nos besoins. Alors nous, c'est comme ça qu'on travaille. Mais on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais ceux qui me disent « Ah, c'est trop difficile de récupérer à la maison », moi, je dis que c'est une question de changement d'habitude. Il suffit d'avoir deux contenants, un à côté de l'autre, la poubelle, le bac de récupération, puis de savoir bien trier. Puis à défaut de savoir quoi mettre dans le bac, on n'en met pas plus dans un bac de récupération. Hein? Jamais, jamais, jamais. De toute façon, l'objet, s'il va pas à la récupération, va être transporté au centre de tri. Au centre de tri, il va être transporté dans un conteneur à déchets pour ensuite se retrouver à l'incinération ou à l'enfouissement. Fait qu'il faut se dire, on fera pas, c'est pas nous qui allons changer les façons de faire d'un centre de tri ou d'une ville à grande échelle parce qu'on décide de constamment y mettre, par exemple, notre styromousse. Le styromousse, ça se récupère, oui, mais pas partout. Mais quand on peut le mettre, on le met. Quand on peut pas, on le met pas. Puis ça, vous allez voir des étiquettes, des libellés contradictoires sur le territoire de la ville de Québec. Mais c'est sûr que quand on a une étiquette avec une bonne sortie correcte, les chemins peuvent être différents, puis c'est pour ça que parfois, on va récupérer des contenants multicouches à un endroit, alors qu'à l'autre, on le récupère.
Ouais. C'est vrai que ce qui est difficile, c'est quand il y a des mélanges, par exemple.
Ben, les multicouches, c'est un bon exemple. C'est les contenants, il y a deux types de contenants multicouches. Quand je parle de multicouches, c'est des contenants, il y a les contenants aseptiques, à pignon, les contenants à pignon, c'est ceux, les fameux berlingots de lait.
Ouais,
alors, c'est des contenants en plastique et en carton. Les matières peuvent être séparées lorsqu'ils sont récupérés, recyclés. Fait que ça se récupère. Pendant longtemps, à Québec, on les ramassait pas parce qu'on les, on pouvait pas les faire, on les faisait pas suivre vers un recycleur. Aujourd'hui, on le fait. C'est tant mieux. Alors, puis là, c'est la même chose, les fameuses petites boîtes à boire, la marque Tetra Pak, bien connue. Là, c'est un autre type de contenant multicouche. C'est du plastique, du carton, puis de l'aluminium. Puis encore là, on peut les séparer, puis en faire de nouveaux produits.
Ouais. Alors, on a parlé des matières résiduelles, mais vous traitez bien d'autres sujets. L'eau, les gaz à effet de serre.
L'air, les gaz à effet de serre. On a différentes activités, tout à fait.
Et il y a des activités, mais aussi un service de conseil qui est quand même assez différent. Comment est-ce que vous... Je crois que vous conseillez depuis longtemps certains cégeps?
Oui, tout à fait. On est on est les consultants en éducation relative à l'environnement pour le cégep Limoilou depuis plus de 10 ans, puis pour le cégep de Sainte-Foy depuis 3 ans maintenant. Alors là, on travaille sur tous les fronts. On va travailler en gestion des matières résiduelles, en qualité de l'eau, qualité de l'air. On va travailler beaucoup à partir de leur politique environnementale et on va essayer de développer avec eux des plans d'action pour qu'ils respectent leurs différentes accréditations, par exemple. Alors c'est un travail quotidien où, par exemple, moi je suis déployée là, tous les mercredis, je suis à Limoilou, tous les jeudis, je suis à Sainte-Foy. Alors il y a des membres de mon équipe comme ça qui vont se déplacer un petit peu partout.
Un cégep, finalement, en termes d'impact environnemental,
c'est énorme. C'est comme une ville, c'est comme une petite ville. Ah oui, c'est énorme. Juste pour donner un exemple concret, à Sainte-Foy, le collège est bien connu, c'est l'équivalent de 2 gros transrouliers par semaine qui s'en vont au centre de tri. Alors, quand on est arrivé, Québec Air, il y a 3 ans, on ne faisait absolument pas, ces matières-là étaient mises à l'élimination, tout simplement.
D'accord.
Aujourd'hui, elles sont récupérées. Fait que c'est sûr qu'on a un petit travail. Moi, je dis que Québec Air, on fait le travail des petits pas, un après l'autre. Là, en ce moment, on va travailler bientôt. On est dans 4 écoles de primaire ou secondaire de la région de Québec en ce moment, où on élabore avec eux leur plan de gestion des matières résiduelles. Ça, c'est un exemple. On a fait pour la ville de Québec dans d'autres dossiers, là, la qualité de l'eau. On a un atelier qui s'appelle « Moi, je contamine pas », justement pour dire aux gens, souvent, ils sont surpris. Hein? « Moi, je contamine pas l'eau », oui, mais on façon de parler, aussitôt qu'on utilise l'eau, l'eau devient souillé, oui. comment il est traité par la ville, tout ça. On a une excellente eau de qualité. Ici, on n'a pas à en faire envie du tout aux eaux embouteillées. Mm-hmm. Puis si j'avais un conseil à donner, c'est justement buvez plus d'eau embouteillée, une moins bonne qualité, oui. que c'est souvent l'eau de l'aqueduc mm-hmm. d'une autre municipalité, souvent aux États-Unis. Puis l'eau a séjourné dans une bouteille de plastique pendant un certain nombre de temps. Alors, c'est pas rien. Mm-hmm. Alors, l'eau de notre aqueduc est de bonne qualité.
Ouais, finalement, il y a moyen de s'engager avec des petits gestes tous les jours, mais ce week-end en particulier...
Oui, c'est, le 22 avril, lundi, c'est la fête de la Terre, ouais. officiellement le jour de la Terre. Mm. Et le 21, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a la marche, il y a une marche à Montréal qui est organisée, il y a des gens qui peuvent se mobiliser, il y a Nature Québec qui organise du transport. Puis encore ce matin, quand j'ai parlé aux intervenants, il y avait encore de la place. Alors, les gens peuvent s'inscrire auprès de Nature Québec pour le jour de la Terre. Et aussi, vous voyez qu'on collabore aussi à mm-hmm. Québec Air. Il y a le Conseil régional de l'environnement qui va tenir un événement à Place Laurier. Ouais. Et je pense que vous serez de l'équipe.
Oui, moi, je serai de l'équipe. Je serai bénévole ce week-end à Place Laurier. Voilà.
Oui. Alors ça devient intéressant. Mais ce que je dirais, c'est que à ceux qui sont déjà convaincus, il faut prêcher par l'exemple. Puis il faut toujours se donner un défi supplémentaire. Alors, une fois qu'on fait notre petite routine train-train quotidien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Comment on pourrait améliorer? Parce que c'est pas vrai qu'on peut continuer à vivre comme on vit en ce moment, à épuiser les ressources comme on le fait. Il va falloir qu'il y ait des changements. Il y a des gros lobbies qui existent à travers le monde entier pour que ce soit la surconsommation. Alors, il faut se mobiliser. C'est sûr qu'on est contre Goliath, mais si chacun fait ce qu'il a à faire, un jour, on y arrivera.
Ben, petit à petit, un petit pas devant l'autre, on oui. y arrivera. Ben, écoute, merci beaucoup, Barbara.
Ça m'a fait plaisir.
Ben oui, moi aussi. Et puis, ben, on se retrouve, moi et puis Julien, la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Troisième Planète à 17h. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.